Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Café sans filtre, le podcast pour échanger autour de thématiques liées aux nouvelles technologies et à l'innovation. Je suis Mélissa Diantété, membre de l'équipe du Café sans filtre. Pour l'épisode du jour, nous allons parler du télétravail et de réorganisation des entreprises face à la crise. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous en sommes sans doute à la 4e, 5e ou 6e vague. Je vous avoue, je ne suis plus trop le nombre de vagues ou l'état d'avancement de cette crise, tant il y a eu de vagues et de crises. Mais une chose est sûre, c'est que cette situation aura particulièrement changé le regard de beaucoup d'entreprises sur l'idée qu'elles se faisaient du télétravail. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Héloïse Leloup, directrice du pôle développement humain et transformation des organisations à l'Agence du numérique. Avec Héloïse, nous avons fatalement parlé de télétravail, de la notion de digital nomade, mais aussi de la maturité numérique des entreprises wallonnes, du manque d'expérience de certaines entreprises face à la crise et face à l'urgence imposée par la crise, mais aussi de l'impact imposé par cette crise ou encore de la perte d'interaction spontanée entre collègues. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement de ce podcast pour le café numérique, donc le café sans filtre. Merci beaucoup pour ta présence.
Avec plaisir, Mélissa.
Alors, juste pour mettre dans le contexte pour les personnes qui nous écoutent, on est en Zoom. Donc, d'avance, je m'excuse si la qualité du son n'est pas équivalente à ce qu'on pourra avoir avec une interview face à face, mais je pense que ça devrait aller. Mais voilà, au cas où, je préviens quand même à chaque fois en introduction. Alors, je vais quand même t'introduire donc, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, la thématique qu'on va aborder avec toi, c'est le télétravail. C'est une thématique qui est tendance, je vais dire, dans le sens où on est plongé dedans. On a beaucoup parlé de télétravail depuis un an et demi, voire presque deux ans, du fait de cette crise qui nous a été imposée, des conditions imposées. Et donc, toi, tu es directrice du pôle développement humain et transformation des organisations à l'Agence du numérique. Donc, je vais te laisser présenter après l'Agence du numérique et présenter exactement ce que tu fais. Donc, ici, la thématique, ça va être donc, le télétravail et comment ça a impacté les entreprises wallonnes. Et alors, au niveau de l'ADN, ça va être intéressant aussi d'avoir le point de vue de votre structure et comment est-ce que vous avez accompagné ou conseillé ou proposé des recommandations aux entreprises wallonnes durant cette période. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques minutes, peut-être présenter un peu ton parcours et exactement ta fonction au sein de l'ADN?
Alors, Héloïse, et en effet, je m'occupe de tous les aspects développement humain et transformation des organisations au sein de l'agence. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner finalement les usages au numérique. Donc, on travaille sur quatre axes spécifiques au sein du pôle d'expertise développement humain, qui sont tout ce qui est les aspects management, les aspects organisation numérique. Donc, comment est-ce que les entreprises s'organisent aujourd'hui en introduisant la technologie? Tous les aspects liés aux compétences, donc la capacité des hommes et des femmes à travailler avec la technologie, et alors tout ce qui est accompagnement au changement, parce que dans transformation numérique, on l'oublie souvent, mais le mot très important aussi, c'est la transformation, et ce qui se transforme, c'est nous, en fait, les hommes et les femmes au sein des entreprises, pour pouvoir travailler au mieux avec la technologie.
Ok, super. Et alors, est-ce que, donc ça c'était le rôle donc, de ton pôle, est-ce que tu peux peut-être rappeler dans une vue plus globale, quel est le rôle de l'agence du numérique, donc l'ADN?
Alors, l'agence, elle conçoit, elle développe et elle met en œuvre la stratégie Digital Wallonia, qui est en fait la stratégie numérique de la région wallonne. Et elle travaille en fait à cette stratégie à travers quatre grands axes, qui sont ses quatre grandes missions en fait. Elle fait de la veille, donc elle observe et elle regarde un petit peu quelles sont les évolutions technologiques. Et elle informe évidemment de ces évolutions, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, etc. Et elle le fait en fait à travers notamment un outil qui est le DigiScore, qui nous permet aussi de capter les tendances sur le terrain de ces développements technologiques au sein des entreprises. Donc, ça nous permet d'objectiver un petit peu les choses, où on en est, en fait, par rapport à ce qui se passe en dehors de nos frontières, en dehors de nos murs de nos entreprises, avec ce qui s'y passe réellement, et de voir par cet intermédiaire quelles sont les recommandations que l'on peut émettre. Et j'en arrive du coup au deuxième point de notre mission, qui est la gouvernance. Donc, sur base de ces observations, de ce qui se passe chez nous et en dehors de chez nous, on émet des recommandations. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour suivre les évolutions? Et puis on communique aussi, ça c'est notre troisième grande mission, on communique finalement sur toutes les bonnes pratiques qui peuvent aussi inspirer les entreprises, les citoyens, le gouvernement, etc., de se dire finalement on peut aussi apprendre de ce qui se fait en région wallonne, et on encourage du coup la mise en réseau, puisque tout ne repose pas évidemment sur l'agence numérique, hein. Il y a beaucoup de structures qui y travaillent. Et alors, la quatrième et grande mission de l'agence, c'est tout ce qui est la transformation. Donc, on conçoit et on développe des plans d'accompagnement de transformation numérique. Alors, évidemment, il y a des programmes bien connus qui sont industrie du futur, de l'économie sociale, de l'enseignement, mais donc dans différents domaines.
OK, super. Merci pour cette présentation des quatre grandes missions. Je vais revenir sur un des points donc, que tu as mentionné dans les missions de l'ADN, qui est de communiquer sur les bonnes pratiques et encourager aussi la mise en réseau. Donc, vous travaillez avec des partenaires. Et alors, dans le cadre de cette crise, fatalement, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, pas mal d'entreprises ont été amenées à faire du télétravail. Et alors, ma première question, c'est quel a été votre rôle? Donc, quel a été le rôle de l'ADN par rapport aux questions liées au télétravail, et comment est-ce que vous avez communiqué ou alors activer votre réseau pendant cette crise pour aider, on va dire, les entreprises wallonnes?
Alors, à travers ces quatre missions très générales qui concernent en fait tous les aspects, y compris le télétravail, au niveau de la veille, à travers notre baromètre donc de maturité numérique, on a essayé de capter déjà ce qui se passait en région wallonne au moment du confinement, durant la phase 1, ce qui nous a permis déjà d'extraire un certain nombre d'informations, de données qui nous permettent de voir où on en était. Et par rapport au télétravail, il y a des questions spécifiques qui ont été posées à ce sujet-là, que ce soit au niveau des outils utilisés, mais que ce soit aussi au niveau du management, etc., qui nous a aussi permis de capter les tendances. Et ce sont des informations qu'on transmet à l'extérieur, qui permet à chacun un peu de s'inspirer et de constater ce qui se passe par ailleurs pour voir ce qu'il y a à mettre en place dans sa propre entreprise. On travaille avec des réseaux, que ce soit des réseaux RH, etc. Donc, on expérimente ensemble, on fait des échanges de bonnes pratiques, on s'échange des outils entre nous pour voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il faut savoir que la crise, on parle de télétravail, mais le télétravail en période de crise, ce n'est pas vraiment du télétravail, c'était une situation inédite pour tout le monde. Le télétravail tel qu'on le connaissait avant, un ou deux jours par semaine dans certaines entreprises, le télétravail 5 jours sur 5, et dans le contexte anxiogène dans lequel on était, c'est autre chose que la simple notion de travail. Donc, il faut attention de ne pas tirer peut-être des conclusions hâtives entre télétravail et télétravail en période de crise. Ça me semble important, cette distinction-là. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a pu objectiver et mettre comme recommandation, en tout cas, ça a été pu mis en évidence, c'est que très clairement, le numérique a permis à la région, en tout cas, de sauver les meubles autant que se peut, pour pas mal d'entreprises, puisque quand même 60% des entreprises ont pu rester en activité en tout ou en partie grâce à leur maturité numérique.
Tu as mentionné le rapport réalisé par Digital Wallonia, le baromètre. Je vais peut-être reprendre quelques chiffres de ce baromètre qui sont publiés. Je le mettrai aussi en lien quand on partagera le podcast. Donc, on constate que parmi les entreprises qui sont restées opérationnelles pendant la vague 1, parce que c'est ça aussi que tu dis, le numérique a aidé, les modalités de travail ont souvent été modifiées. Donc, je reprends quelques chiffres. Donc, 17% ont introduit ou renforcé le télétravail, donc 40% des entreprises employant 10 personnes ou plus. On constate aussi que 14% ont adapté les horaires, 20% dans les plus de 10 personnes. 7% ont restructuré leurs équipes de travail. 26% ont utilisé de façon systématique, les outils de collaboration en ligne de type Zoom, Teams, Skype, etc. On ne va plus faire leur pub aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup leur pub pendant le confinement. Tandis que 12% l'ont fait de manière occasionnelle, respectivement 40% et 17% dans les plus de 10 personnes. Du coup, Moi, quand j'ai vu ces chiffres-là, donc, il y a une petite conclusion donc, sur ces entreprises. Il y a 18% qui indiquent la volonté de maintenir le télétravail structurel. Tu l'as dit aussi dans ton introduction. Il faut faire la différence entre le télétravail en période de crise et le télétravail en période normale. Et quand je dis que sur ces entreprises qui ont été interrogées, 18% indiquent leur volonté de continuer à instaurer le télétravail après la crise. Ça me semble peu. Je pensais qu'il y aurait un mouvement, un changement qui serait beaucoup plus, beaucoup plus fort à ce niveau-là. Et je voulais du coup avoir ton avis sur ce pourcentage. Est-ce que pour toi c'est bien, c'est une progression? Est-ce que on part d'où en fait avant c'était quoi les chiffres si on en a? Quelle était la volonté des entreprises avant la crise? Je ne sais pas si vous avez une comparaison pour dire 18%, mais on part de 3% ou alors voilà.
D'accord. Oui, alors je vais peut-être t'étonner, mais moi j'estime que c'est positif. Que c'est positif parce que il faut évidemment analyser le chiffre à la lumière de la manière dont il a été extrait, ne pas l'interpréter trop vite. D'abord, il a été fait sur un petit échantillon. Donc, on a refait une mini-enquête dans l'urgence après la phase 1 du confinement. On sait qu'on a aussi beaucoup appris la phase 1 pour la phase 2 du confinement. Et donc, les choses ont continué à évoluer. Et donc, finalement, ce chiffre n'est pas représentatif. Sans doute, si on devait refaire l'enquête aujourd'hui, le chiffre serait sans doute différent. Mais malgré tout, malgré qu'il ait été fait après la phase 1, je pense que c'est positif parce que, avant la crise, en fait, ce que le SPF Mobilité avait comme chiffre, c'est que le télétravail était déjà introduit dans 17% des entreprises en Belgique. Alors en général, quand il était introduit, c'était 1 ou 2 jours par semaine. Et les causes principales de cette introduction étaient soit pour le bien-être des travailleurs ou pour des questions de mobilité. C'était les raisons principales évoquées, en tout cas pour le télétravail dans cette entreprise, dans ces entreprises, pardon. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce télétravail, il était introduit par la force des choses, comme tu l'as bien dit. Donc forcé, il a fallu s'organiser très vite. Toutes les entreprises n'ont pas été en capacité de s'organiser si rapidement dans la phase 1 pour mettre en œuvre le télétravail. Il faut le temps, il faut les outils, la réglementation. Enfin, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et alors, il ne faut surtout pas oublier, et ça me semble important parce qu'on a tendance souvent à faire ce raccourci avec le télétravail, que ce n'est possible que dans certains secteurs. Il y a des activités aujourd'hui qui ne peuvent pas s'exercer à domicile et qui représentent des secteurs importants. En Wallonie, on pense à l'industrie, à l'HoReCa, au commerce. Il y a des tas d'activités qui ne sont pas aujourd'hui réalisables à domicile ou dans un autre lieu. Parce que quand on parle de télétravail, on a souvent tendance à faire le raccourci avec le domicile, mais c'est simplement le fait de travailler ailleurs que dans les murs de l'entreprise. Et alors, il y a des secteurs qui ont beaucoup plus facile à mettre du travail, principalement les grandes entreprises, ont tout ce qui est consultants, services aux entreprises, immobilier, etc. Donc, il y a la notion de secteur, il y a la notion de la taille de l'entreprise. En général, plus une entreprise est grande, plus elle a facile d'introduire ou de renforcer le télétravail. Il y a aussi toute cette notion de privé-public. On voit bien que dans le public, c'est plus complexe de mettre le télétravail. Pourquoi? Parfois pour des questions d'infrastructure, pour des questions réglementaires aussi, qui sont assez différentes du privé, où ils doivent respecter des législations en général et des procédures assez strictes. Et donc, ces 17% s'ajoutent. En fait, s'ajoute aux 17% déjà qui étaient en télétravail. Et je serais curieuse de refaire le sondage ici après la phase 2. Et alors, j'ai envie de dire, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir celles éventuellement qui auraient pu le faire, qui avaient les moyens de le faire et qui ne l'ont pas fait, avec le recul et avec ce qui s'est passé, les leçons qu'elles vont tirer aussi de la crise que nous avons vécue pour faire évoluer leur mode de travail plus tard. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps au temps, la réflexion. Il y a eu beaucoup de choses à gérer, le télétravail, mais pas que pour les dirigeants. Et donc, il faut le temps, je pense, de laisser les choses se mettre en place et à chacun tirer les enseignements pour son activité.
Et justement, donc, tu parles de ces entreprises donc, qui n'ont pas passé le pas. Pour toi, donc, fatalement, donc, on voit que dans les entreprises qui techniquement et structurellement pouvaient le faire, le switch ne s'est pas fait. Est-ce que vous avez une idée des freins de ces entreprises? Pourquoi est-ce qu'elles se disent non, nous, le télétravail, c'est hors de question, on ne voulait pas le faire avant et on ne va pas se laisser imposer un télétravail et donc
Je sais pas, est-ce qu'elles ont tout simplement fermé, mais bon, je ne sais pas comment est-ce qu'elles se sont organisées. Mais donc, est-ce que à l'ADN, vous avez une idée des freins de ces entreprises?
Alors, les principaux freins qu'on peut mettre en évidence, le premier d'abord, c'est le manque d'expérience. Donc, tous ceux qui avaient déjà introduit le télétravail, même un jour par semaine ou de façon occasionnelle, ben forcément, celles-là, ça veut dire qu'elles étaient déjà équipées pour le faire. Donc, il a fallu amplifier, mais il y avait déjà, voilà, les prémices qui étaient là. 100% télétravail, de nouveau, ce n'est pas la même chose. Donc, il a fallu bousculer ses habitudes. Donc, la notion d'expérience est importante. Le deuxième élément, c'est tous les aspects matériels. Je veux dire tout ce qui est aspect connectivité et infrastructure. Alors, on pense évidemment au PC portable, au smartphone, etc. Mais il y a aussi la connexion. Tout le monde n'a pas forcément une connexion facile chez soi, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est dématérialisation des processus métiers. On voit qu'il y a des processus, que ce soit la facturation, la gestion des stocks, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est digitalisé? Donc, on passe déjà à une notion technologique un peu plus avancée. Donc, voilà, l'expérience, tout ce qui est aspect, je veux dire, matériel, infrastructure, connectivité, ça, c'est la base pour pouvoir simplement le faire. Et puis, alors, un enjeu qu'on a complètement sous-estimé ou qu'on avait tendance à sous-estimer avant la crise et au plus grand bonheur des RH, dont le mien aussi, c'est qu'on se rend compte à quel point il ne suffit pas d'avoir le matériel et la connexion pour pouvoir télétravailler, mais qu'il faut aussi investir finalement dans tous ces aspects plus invisibles de l'organisation et pourtant qui ont tellement d'importance sur l'atteinte des résultats d'une entreprise, qui sont, ben, voilà, tous les aspects humains. Je pense les aspects humains, il y a évidemment la notion de compétence. C'est bien d'avoir un outil collaboratif pour collaborer avec ses collègues. Si je ne sais pas l'utiliser, je ne suis pas bien avancée. Voilà, donc aussi simple que ça, pour vous donner un exemple concret, ou la même chose pour la dynamique managériale. On ne manage pas de la même manière à distance qu'en présentiel. Et là aussi, on a senti certaines entreprises qui étaient complètement perdues. Je pense principalement aux organisations qui étaient encore dans des modes managériaux fort pyramidaux. Et donc construit sur une logique de contrôle, etc., un peu démunis dans la manière de faire dans le cadre de cette crise. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a trois finalement éléments à retenir, c'est l'expérience, tout ce qui est matériel, mais aussi tous les aspects humains, organisation, leadership, compétences, etc., et l'accompagnement à ce changement, hein, parce que ici on était par la force des choses, ce changement s'est imposé, mais comme il a duré, il a fallu s'y accompagner pour voir un peu comment on pouvait faire évoluer les choses progressivement. Et par rapport à ce point humain, ce qui est intéressant, c'est quand on a interrogé les dirigeants par rapport aux finalement les facteurs pour eux les plus déterminants pour permettre aux activités de se dérouler à distance. En premier lieu, ils mettent les compétences. Donc, ils disent, quand on leur pose la question, finalement, on n'a pas les compétences disponibles en interne.
Ah donc tu veux dire par exemple pas de personnes chez eux pour mettre en place ce changement ou bien c'est eux-mêmes au niveau de leurs compétences
Non, les compétences en interne, donc que ce soit eux ou d'autres collègues pour mettre en œuvre ce changement technologique ou humain qui s'impose. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça a pu mettre en évidence toute l'importance de l'investissement humain dans la transformation numérique des entreprises. Et puis arrive en deuxième lieu la connectivité performante pour leurs collègues qui télétravaillent, enfin pour les collaborateurs et les travailleurs qui travaillent. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a un investissement à faire en termes de connectivité. Et alors, la digitalisation des processus métiers, ça ressort également, ben, la difficulté. Et on le sait bien, hein, pour les petites entreprises, c'est parfois des investissements importants de digitaliser certains processus métiers. Et donc, là aussi, il faut laisser le temps au temps. Je pense qu'on va tirer des enseignements et que du coup, on va pouvoir émettre des recommandations en termes d'investissement dans ces domaines-là.
Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir dans ce que tu viens de dire. C'est d'abord la partie humaine, enfin, les aspects humains, parce que c'est vrai que quand on pense au télétravail, on pense directement à la partie technique, sans penser à ce que ça engendre derrière. Tu as parlé de la dynamique managériale, de gérer une équipe, mais il y a aussi l'aspect de, par exemple, une personne qui n'est pas du tout bien à travailler chez elle. Toute seule derrière son ordinateur, ce n'est pas la même chose que de travailler en équipe, ou alors la pression qu'on peut éventuellement ressentir, parce que fatalement, on est plus facilement sollicité parce qu'on a son ordinateur tout le temps ou son téléphone, et donc la possibilité d'avoir une augmentation de burn-out ou de, voilà, de crise en interne au niveau humain. Est-ce que, donc ma première question, c'est est-ce que vous avez des recommandations, parce que tu as aussi parlé de recommandations que vous faites au sein de l'ADN, pour essayer un peu d'aider les équipes managériales à passer le cap. Donc, tu l'as dit, il manque de compétences. Ma première question sur les aspects humains, est-ce que vous avez peut-être un cadre, peut-être vous appuyez sur un cadre politique que vous pouvez donner comme conseil aux entreprises? Et donc, deuxième question, par rapport aux aspects plus techniques, est-ce que vous avez une sorte de boîte à outils que vous avez pu conseiller ou recommander aux entreprises qui évoquer le fait de manquer d'expérience, manquer de compétences en interne pour faire le pas vers le télétravail.
Alors, la boîte à outils matérielle, je veux dire, c'est celle qu'on comprend le mieux, hein, la connectivité, etc. Donc oui, en termes de boîte à outils, c'est une bonne question parce que justement, nous allons sortir une boîte à outils qu'on va publier en ligne et mettre à disposition des entreprises pour leur permettre justement de choisir les bons outils parce que ce n'est pas si simple que ça. Il y a évidemment la question d'avoir des outils, mais choisir des outils dans l'urgence et lequel est finalement le plus approprié à mon entreprise, que ce soit par rapport à la finalité, mais aussi par rapport au coût, etc. Ce n'est pas si simple que ça de s'y retrouver par rapport à la multitude de logiciels qu'on nous propose. Donc là, on a conçu une petite boîte à outils pour permettre aux entreprises de mieux choisir sur base des critères qui sont importants pour eux.
Super, ça, génial. C'est pour
Pardon?
J'ai dit c'est super, ça serait que c'est hyper pratique du coup.
Nous pensons en tout cas que ça répond à un besoin. Donc, on va voir les retours de cette boîte à outils. Après, c'est une première cartographie, hein, parce que tout se développe tellement vite qu'il faudra évidemment faire un gros travail de mise à jour. Mais enfin, c'est une bonne base, ou en tout cas, ça invite déjà à se poser les bonnes questions pour choisir son outil.
Tout à fait.
Le deuxième élément, en effet, ben, le full télétravail, ça s'accompagne au niveau humain. Et j'ai envie de dire qu'il y a, allez, il y a plein d'aspects positifs au télétravail. Personne ne niera le fait que l'idée, c'est qu'on puisse concilier une meilleure vie privée, professionnelle, qu'on a moins de trajets, etc. Pour les entreprises, ça permet de fidéliser les travailleurs, etc. Donc, les opportunités, je pense que chacun peut les percevoir, mais ça ne s'est pas fait sans mal non plus. Le fait qu'on l'ait vécu à 100% et en période de crise, ça a permis vraiment de mettre en évidence certains éléments. Premièrement, j'ai essayé d'en lister trois qui me semblent, il y en a d'autres, mais qui me semblent vraiment importants. Ça brouille complètement en fait les frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, dans l'ancien modèle, c'est je quitte le bureau, je rentre chez moi, je rentre dans ma vie personnelle. Donc, c'est très physique. Cette frontière-là, on ne l'a plus. On sait bien que tout le monde ne travaillait pas dans un petit bureau bien fermé où ils pouvaient fermer la porte. Certains ont des enfants, vivent en appartement. Enfin, voilà, toutes ces frontières-là se sont brouillées. Le deuxième élément, c'est que finalement, ça a laissé penser à beaucoup qu'il devait être réactif tout le temps, en permanence. Et donc, cette idée de connexion constante, où finalement, ça a brouillé les pistes entre l'urgent et l'important. Ça nous a donné l'impression que tout était urgent tout le temps, qu'on veut répondre directement, et sans doute encore plus dans les entreprises où le management est très contrôle. La peur de ne pas répondre, la peur qu'on voit que je ne travaille pas, ou qu'on puisse penser que je ne travaille pas juste parce que je ne réponds pas directement. Et ça, c'est vraiment une grosse dérive, évidemment, qui a mis pas mal de personnes en difficulté, hein, cette surconnexion. Et en plus, comme on a plusieurs possibilités de se connecter, quand on a des notifications de tous les côtés en même temps, il y a quoi parfois perdre la tête. Et le troisième élément qui est aussi, mais, finalement, toute cette perte d'interaction spontanée. Quand on interroge les collègues, ils nous disent souvent, oui, moi, je reste en contact avec les personnes de l'entreprise, mais les personnes avec lesquelles j'ai un résultat attendu, donc avec lequel je dois travailler, mais tous les collègues qu'on croise et qui nous donnent parfois de bonnes idées sur nos projets, mais avec lesquels on n'a pas forcément collaboré, on n'est plus enrichi de tout ça. Et donc, il y a aussi cette dégradation du sentiment d'appartenance. Donc, ça demande vraiment fortement aux entreprises de se réinventer. Mais quand on parle du télétravail, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que finalement, c'est qu'une phase visible de l'iceberg par rapport à tout ce à quoi il faut penser pour réinventer l'organisation. Donc, en fait, l'entreprise, avec l'introduction du travail à distance, elle doit complètement se réinventer. Elle a complètement recréé son cadre. Alors, moi, j'aime bien ce terme-là parce qu'il me parle, mais c'est le cadre de qualité de vie. finalement, quel est le cadre qu'on se donne pour travailler efficacement et bien ensemble dans ce nouveau contexte. Et forcément, alors vient là les questions de compétences. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire aujourd'hui à distance, que je ne suis pas en capacité de faire? Comment est-ce que l'entreprise peut soutenir? Donc forcément, on pense à la formation, mais il n'y a pas que la formation dans le développement, il y a l'expérience, il y a toutes ces histoires de mentorat, etc. Donc il y a plein de possibilités pour pouvoir se développer et être accompagné dans l'acquisition de compétences. Et il y a surtout la mise en capacité d'accepter et d'encourager les collègues et les collaborateurs à apprendre par l'expérience, ce qui signifie aussi accepter qu'ils se trompent, parce qu'expérimenter une expérience n'est pas toujours réussi. C'est la définition même de l'expérience. Et donc, il faut accepter, il faut faire confiance et dire, voilà, on donne droit à l'erreur. Et on encourage les collègues à apprendre davantage par eux-mêmes. Par rapport au cadre et aux recommandations à faire par rapport au télétravail, je pense qu'il faut le réfléchir à trois niveaux. D'abord, il faut penser toutes les recommandations au niveau individuel, c'est-à-dire quelles sont les recommandations qu'on peut donner aux collègues chez eux pour bien télétravailler. Alors, quand on fait ce travail en collectif, c'est amusant parce que certains disent « moi, j'ai besoin d'aller courir à midi, moi, je lis quelque chose que j'aime bien le matin ». Voilà, chacun a un peu ses rituels, recréer des habitudes en télétravail. Le deuxième niveau, c'est finalement qu'est-ce que l'entreprise, elle, peut se mettre comme règle de conduite générale pour encourager l'efficacité et le bien-être. Alors, des entreprises ont testé pendant le confinement. Oui.
Le premier conseil, donc, du coup, il est destiné aux managers d'équipe qui donnent conseil à leurs collègues, ou bien c'est, quand tu dis, quel conseil on peut donner aux employés, c'est l'entreprise, l'employeur qui donne, ou c'est le manager qui donne, ou peut-être les deux?
Alors, ce cadre de qualité de vie, pour moi, il doit être inévitablement co-construit. C'est-à-dire qu'il doit être construit avec les collègues et avec les managers. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation inédite. Et donc, chaque collègue nous apprend aussi de l'expérience qu'il a vécue lui-même. Et on le voit, une expérience d'un individu n'est pas l'expérience d'une autre. Il y a des gens qui sont ravis en 5 jours télétravail. Ils sont peut-être dans des conditions plus faciles, plus aisées, avec un bureau fermé, une bonne connexion, à l'aise avec les outils, etc. On en a d'autres qui doivent gérer leur vie de famille, des petits-enfants en bas âge, et qui disent juste « c'est un enfer ». Voilà, et donc les conseils et les recommandations individuelles, l'entreprise ne peut pas savoir de facto ce qui est bien pour la personne, seule la personne ne peut le savoir. Par contre, le simple fait que l'entreprise encourage les collègues à se poser des questions, de se dire quelles sont les règles de conduite que tu peux te mettre pour toi pour te permettre d'être bien au travail, je pense que ça a son importance. Pourquoi? Parce que le fait de poser la question, d'y réfléchir ensemble, d'échanger des trucs et astuces, ça permet aussi déjà de démontrer, de l'entreprise et de ses employés, de l'intérêt qu'elle porte à leur bien-être. Donc, c'est vraiment au niveau individuel. Mais là, on est vraiment dans la question de l'autodiscipline. On ne va pas aller vérifier si la personne qui aime bien aller courir à midi court bien, en effet, tous les midis, ça n'a aucun sens. Donc, c'est simplement se poser la question. Et puis, il y a la question de la recommandation par rapport à l'entreprise. Finalement, l'entreprise, à son niveau, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, comme règle ou comme recommandation? Et là, les entreprises ont un peu testé pendant les phases. Il y en a qui ont, par exemple, interdit les échanges de mails en soirée ou le week-end, ou qui ont été même jusqu'à couper les serveurs. Il y en a qui imposaient qu'on peut pas faire maximum de réunions sur une plage horaire matin ou midi. Il y en a, par exemple, qui ont imposé une plage de déconnexion pour tous, une plage horaire sur la semaine. Des entreprises qui ont fait plus basiquement, où il faut indiquer dans l'objet le degré d'urgence pour être sûr que les gens ne se sentent pas obligés d'ouvrir chaque fois leur mail quand c'est pas nécessaire, etc. Voilà, chacun a un peu expérimenté ses règles. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi ces règles qu'on peut mettre en entreprise, de les réfléchir avec les collègues, parce qu'on voit très vite que les besoins des uns ne sont pas les besoins des autres. L'avantage du télétravail, je pense que c'est difficile de contredire ça, c'est la flexibilité qui nous est offerte à tous, de mieux s'adapter par rapport à nos vies personnelles. Si on dit par exemple à quelqu'un qui doit aller chercher ses enfants l'après-midi et qui du coup apprécie travailler le soir, quand il est plus au calme, parce que lui, ça l'arrange, et qui ne peut pas envoyer des mails le soir, ça va l'embêter. Alors, on peut dire, voilà, on peut mettre une règle, on diffère ce message, par exemple. Ça peut être aussi une règle à mettre en place. Mais en fait, ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre. Et c'est amusant de faire ça ensemble parce qu'on, du coup, les collègues conscientisent bien la difficulté, la complexité de mettre une règle commune pour tous qui satisfasse tout le monde. Mais par contre, le fait de simplement de déjà dire vous ne devez pas être connecté à tout moment, à toute heure, il y a des heures de travail, il y a des heures pour vous. On vous recommande d'éviter les mails le week-end et le soir si vous en avez l'occasion. Ce genre de choses, ben, c'est déjà montrer aussi aux employés qu'on en tient compte et qu'ils ont le droit de ne pas répondre le soir. Si on autorise les mails le soir parce qu'on n'a pas envie de faire une interdiction bête et méchante, eh bien, la personne. Voilà, qui a ça dans son cadre de travail, c'est qu'elle a le droit de ne pas répondre parce que ça ne fait pas partie de son propre horaire de travail. Et le troisième axe, donc individu, entreprise, et le troisième axe à réfléchir, c'est l'axe management. Mais finalement, comment, quelles sont les règles qu'on se met pour organiser, soutenir, assurer la cohésion, le sentiment d'appartenance, l'esprit d'équipe? Est-ce que, on se fixe d'office une réunion d'équipe par semaine à distance, etc.?
Est-ce que, j'ai une question quand tu dis ça, est-ce que toutes les équipes, enfin tous les managers ne sont pas forcément formés à ça, tu vois? Moi j'ai l'impression que ben, y a des managers qui sont managers parce que voilà, ils ont été désignés managers, mais ils ne sont pas forcément formés à ça. Et donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont appris, entre guillemets, à devoir faire comme ça, sur le tas, pendant la crise. J'ai l'impression que c'est tout aussi difficile que que la formation aux outils numériques de mettre ça en place, parce qu'on n'est pas forcément formé à être manager, parce qu'on se dit, ben, on place manager, tu es censé savoir comment faire, et voilà, manage une équipe, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
Oui, ben je te rejoins. Je veux dire, la situation dans laquelle se retrouvaient les managers était tout à fait aussi inédite que pour monsieur et madame tout le monde, quel que soit son métier. Donc, eux aussi, bon, d'abord, il y a eu la notion d'urgence. Donc, ils n'étaient pas prêts à manager 100% à distance, personne. Et puis, dans l'urgence, ben, on est en gestion de crise. C'est-à-dire qu'il a, OK, il y a l'aspect management, mais dans les temps records, on a dû se dire, ben, est-ce qu'on est dans le bon cadre légal? Est-ce que nos assurances nous couvrent? Est-ce qu'il y a une réglementation à respecter? Donc, il y a toutes ces questions. Est-ce qu'on a l'infrastructure? Est-ce qu'ils ont les outils, etc. Et puis, il y a la dynamique managériale qu'il a fallu adapter. Mais ça ne se fait pas en un coup. L'humain, ce n'est pas un robot où on se dit, ben, voilà la nouvelle machine, tu vas pouvoir commencer. Il faut le temps qu'on réfléchisse, qu'on travaille, ça fonctionne aussi par itération, expérimentation. Par contre, c'est sûr que là aussi, l'expérience et le passif ont facilité l'adaptation à cette crise. Pourquoi? Parce que les tendances qu'on vit aujourd'hui, elles préexistaient la crise. C'est-à-dire, on préconise un management beaucoup plus basé sur la confiance et l'autonomie des travailleurs depuis longtemps. La crise l'a imposé. C'est sûr que, de nouveau, les managers qui axent leur management sur le contrôle, l'information descendante, top-down, etc., ont été bien plus en difficulté dans la situation de crise que les autres qui avaient déjà entamé ces processus de développement managériaux. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi sondé les entreprises par rapport à ce développement managériel et on a posé une question à savoir si finalement, en période de crise liée au travail à distance, s'ils avaient fait évoluer leur dynamique managériale. Et on a évidemment précisé ce qu'on entendait par dynamique managériale, parce que sinon c'est difficile de se positionner. Sur base de trois indicateurs, c'est est-ce que vous évaluez vos collaborateurs davantage sur les résultats? Pourquoi? Parce que les résultats, ça veut dire qu'on est moins dans le contrôle de la tâche, de l'activité, que la personne s'organise comme elle le souhaite et de façon peut-être asynchrone, hein, pas en étant réactif tout le temps, mais en attendant un délivrable à un moment donné. Est-ce que vous travaillez davantage par projet, puisqu'on sait que toute cette dynamique de projet assure la collaboration et la richesse du projet, mais aussi tout ce sentiment d'appartenance, de coopération au sein de l'entreprise. Donc tout ce qui est coopération, transversalité, c'est aussi une condition pour introduire la technologie, en tout cas pour qu'elle s'introduise de manière appropriée au sein de l'entreprise. Et le troisième indicateur, c'est est-ce que vous laissez de l'autonomie à vos travailleurs? Et par rapport à ça, en fait, 27% des entreprises ont dit que oui, ils avaient travaillé sur ces aspects-là pendant la crise. Et donc, c'était intéressant. Alors, de nouveau, ça peut sembler peu ou beaucoup, mais il faut laisser le temps au temps. Et je pense aussi que les managers aujourd'hui vont se poser des questions, de se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on peut développer une dynamique managériale pour pouvoir continuer le travail à distance hors période de crise. Voilà, donc pour moi, vraiment l'élément important, c'est de se dire où est-ce qu'on en est dans notre maturité managériale, où on en était avant la crise, qu'est-ce que la crise nous a enseigné et comment est-ce qu'on peut tirer profit de l'enseignement tiré pendant la crise pour faire évoluer notre dynamique managériale, pour faire évoluer notre organisation dans le futur. Je pense qu'il faut vraiment tirer profit de la crise qu'on a vécue et tirer des enseignements aussi à ce niveau-là.
Exactement. Et enfin, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en parlant de, ben, du futur. Là, maintenant, ben, le télétravail, voilà, on connaît, mais de plus en plus, on évolue vers d'autres formes de télétravail, c'est-à-dire on parle de télétravail. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette tendance, donc la possibilité de télétravailler, mais en dehors de son pays. Donc, imaginons que moi, j'ai envie d'aller travailler à New York parce que j'ai la famille là-bas. Donc, voilà, je décide d'aller travailler à distance. Mais on se rend compte que ben, soit de travailler de manière asynchrone ou alors en dehors de son pays, de son cadre légal, ça engendre aussi des impacts. Voilà, c'est des questions auxquelles, ben, fatalement, on n'était pas du tout préparé. Est-ce que tu as des éléments à nous donner sur cette nouvelle tendance de télétravel, ben, donc du travail à distance, mais donc plus de chez soi, mais carrément de l'étranger, et donc d'avoir une totale flexibilité? Ou alors, ben, tu l'as mentionné un petit peu brièvement, mais le travail aussi, ben, en fonction de la manière dont on préfère travailler. Donc, moi, j'adore travailler le matin. Je me lève à 5h et je termine à 15h30. Mais mes collègues, ben, ils travaillent jusqu'à 17h. Donc, s'il y a des réunions, ben, c'est plus possible. Donc, il y a tous des changements. Donc, tu parles de la maturité managériale des entreprises qui doivent évoluer. Et vers quoi on va aller? Est-ce que pour toi, c'est des tendances qui vont s'installer ou pas du tout parce que le cadre est trop compliqué à mettre en place, quoi.
Non, je pense que c'est le cadre qui doit s'adapter aux évolutions. Donc, je pense que le cadre va progressivement s'adapter. Je pense que c'est une tendance, oui, qui va se poursuivre et se renforcer. Par contre, et en tant que DRH, le cadre n'est pas simple. Donc, entre cette évolution organisationnelle qui, je crois, vont s'imposer aux entreprises si on veut rester aussi concurrentiel, etc. Et puis, ça permet aussi, il ne faut pas l'oublier, du coup, de bénéficier de collègues qui viennent d'ailleurs, des expertises où on est peut-être en pénurie et qu'on pourra aussi engager à l'étranger ou travailler sous cette forme-là. Mais aujourd'hui, le cadre légal, il n'est pas simple. Donc, si le télétravail structurel et occasionnel, hein, parce qu'il y a encore deux formes de télétravail, sont bien réglementés, etc., le télétravail à l'étranger, il est aussi réglementé et possible. Donc, je confirme que c'est possible, mais que c'est loin d'être simple. Et donc, quand je pense aux petites entreprises, pour avoir vécu l'expérience d'accepter du télétravail à l'étranger pour un collègue, en fait, c'est très complexe à mettre en place parce que ben, il y a des paramètres auxquels il faut penser, c'est-à-dire le NSS, la fiscalité, la législation est différente suivant que c'est un pays en Union européenne, hors Union européenne, suivant que le collègue change sa résidence administrative, est-ce qu'il reste en Belgique ou est-ce qu'il met sa résidence dans le pays d'accueil. En fait, il y a énormément de paramètres à prendre en compte et tout ça doit être cadré d'un point de vue juridique. Il y a aussi l'histoire d'assurance, que ce soit d'accident de travail, de santé, etc. Et donc, ça ne s'improvise pas. Ça demande un investissement important. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le cadre légal, en tout cas, ne simplifie pas cette flexibilité. Alors, les grosses entreprises qui ont un service juridique et spécialisé dans tout ce qui est interaction au niveau international, etc., il n'y a pas de souci. Des petites PME ou des plus petites entreprises, c'est évidemment loin d'être évident. Mais je suppose que oui, le cadre légal va se développer parce que je pense que ce sera une évolution sociétale inévitable. Et autant il y a des risques aussi, autant on voit la richesse hein, de tout ça, parce que ça nous a permis quand même aussi d'élargir nos réseaux professionnels. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 20 ans, de pouvoir travailler comme ça tous les jours avec des gens des quatre coins du monde. Donc,
Il y a 20 ans ou même il y a 2 ans, en fait. Donc,
oui, c'est vrai.
Donc, je pense que pour la plupart d'entre nous, à part peut-être des freelances qui ont l'habitude, pour qui ben, cette notion de digital nomade, c'est assez acquis depuis longtemps. Ben, pour la plupart des personnes employées, enfin, qui sont engagées dans une entreprise. C'est pas courant, c'est pas la norme. Donc, je crois que ce changement, il est vraiment très frais, quoi. Donc, tu parles d'il y a 20 ans, mais j'ai vraiment, je dis, oui,
C'est vrai.
c'était hier, quoi. On arrive tout doucement, presque à la fin, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Une question qui résume un peu tout ce que t'as expliqué, hein, mais quel conseil est-ce que tu donnerais à un dirigeant ou d'entreprise ou un cadre, un manager qui souhaite opérer le switch vers le télétravail en rappelant quand même que ce n'est pas une fin en soi, le télétravail, tu l'as bien mentionné aussi, il y a le contexte de crise, il y a le contexte du télétravail occasionnel, et puis il y a des secteurs pour lesquels ça ne se met pas, des fonctions pour lesquelles ça ne se met pas non plus. Donc voilà, c'est pas une fin en soi le télétravail, mais c'est parce que voilà, on en parle beaucoup et ici c'est vrai que c'est le sujet de la discussion. Mais imaginons qu'il y ait une entreprise qui a envie de télétravailler pas, mais qui se sent pas encore prête, ou alors un manager qui veut convaincre sa direction. Peut-être quel conseil tu donnerais, alors peut-être en 4 points ou en quelques mots résumés.
Je lui dirais d'abord d'être humble et d'accepter qu'on est dans une situation inédite, parce qu'aujourd'hui, on va travailler davantage en mode hybride, donc on est de nouveau dans une nouvelle situation, un nouveau cadre à créer, hein. Et donc, qui dit inédit, dit y réfléchir ensemble, avec toutes les parties prenantes de l'organisation, pour être sûr de ne passer à côté d'aucun élément important. Donc, je pense que vraiment, c'est un nouveau cadre de travail, une nouvelle organisation qu'il faut construire ensemble avec les collègues, les managers, etc. Et même au-delà des murs de l'entreprise, y réfléchir en réseau. Et le deuxième conseil que je donnerais de nouveau, c'est de ne pas prendre la porte que du télétravail, mais de prendre la porte de l'organisation de manière générale. Quelle est l'organisation dont je rêve pour mon entreprise demain, qui pourrait être porteuse pour mon activité, de la rêver avec ses collaborateurs et de voir ensemble, ben voilà, quel est le plan, quels sont les ingrédients qu'ils ont envie de mettre dedans pour que ça fonctionne. Et de se poser aussi des questions sur tous les impacts de l'introduction du télétravail, au-delà de nouveau de la technologie, pour qu'ils prennent bien conscience que cette évolution va de pair avec d'autres évolutions. Que ce soit managérial, organisationnel. Voilà. L'introduction du télétravail, en fait, bouscule tout. Et de manière générale, l'introduction du numérique dans une entreprise, bouscule toute l'organisation. Et donc, c'est un chouette défi. Il faut se réinventer, mais il faut se réinventer ensemble.
Parfait, super. Comme on est dans le podcast du café numérique, j'ai quand même envie de savoir si tu as des outils web à partager, à recommander aux personnes qui vont nous écouter. Tout à l'heure, tu as parlé de la boîte à outils, donc tu peux peut-être rappeler la boîte à outils de l'ADN, comment ça va fonctionner, quand est-ce qu'elle va être accessible et où est-ce qu'on pourra la trouver. Et alors peut-être aussi un autre outil si tu en as un qui vient à l'esprit.
Alors, la boîte à outils, elle va sortir, si tout se passe bien, la semaine prochaine. Alors, je vous laisserai découvrir les outils parce qu'en fait, il n'y a pas.
Pour mettre le cadre pour les personnes qui nous écoutent, on est le 1er septembre. Donc, voilà, quand on dit la semaine prochaine, ben voilà, ce sera, j'imagine, courant mi-septembre
C'est ça,
2021.
autour du 15 septembre, oui.
La semaine prochaine, en décembre.
D'accord, oui, donc autour du
Ok,
15
donc je te laisse
septembre.
continuer. Donc.
Alors, je ne dirais pas qu'il y a pas un bon ou un mauvais outil en soi. Il faut toujours réfléchir l'outil par rapport à l'usage qu'on veut en faire. Voilà. J'ai besoin de favoriser la collaboration ou de mesurer le bien-être de mes travailleurs. Quels sont les outils? Quel est l'outil qui pourrait répondre à mon usage? Et du coup, la boîte à outils a été conçue comme ça. On a listé tous les usages possibles à l'intérieur d'une organisation. Et une fois qu'on clique, vous allez cliquer sur l'usage, vous allez pouvoir découvrir un certain nombre de solutions qui vous permettent de choisir sur base d'un certain nombre de critères. Est-ce que c'est une solution locale ou internationale? Est-ce que c'est une solution innovante ou qui a déjà été prouvée depuis plusieurs années, etc. Ben forcément, et en tant que RH, ben c'est une déformation professionnelle. Si vraiment tu veux avoir un outil, ben moi j'aime bien les outils collaboratifs et je pense que celui qu'on utilise quand même beaucoup. Entre entreprises, c'est WorkLab parce que voilà, il est origine belge, voilà, mais il y en a beaucoup d'autres.
Super, ouais, WorkLab, je connais. Je pense que j'ai déjà utilisé ça aussi lors de conférences et c'est vrai que c'est hyper interactif, c'est très chouette. Et effectivement, en plus, c'est chouette de soutenir une jeune entreprise belge. Oui, bonne idée. Cool. Alors, en guise de mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver? Donc, si les personnes qui écoutent ce podcast souhaitent rentrer en contact avec toi ou avec l'ADN, peut-être rappeler où on peut te trouver, le site peut-être aussi de l'ADN.
Alors, où on peut me trouver, ben, ça dépend de l'endroit où je travaille. Non, je rigole. On peut trouver mes coordonnées sur le site de l'agence du numérique. Donc, vous pouvez trouver toutes mes coordonnées. Voilà, vous tapez Héloïse de Leloup et vous verrez mon adresse mail, mon numéro de contact. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Ok, super. Ben, merci beaucoup, Héloïse, pour ton temps. C'était agréable de partager cette discussion avec toi sur le télétravail et de voir que le débat, même si finalement on pensait que c'était une chose acquise avec la crise et qu'on est habitué, le débat est encore grand, ouvert et qu'il y a encore plein de questions à se poser. J'aimais bien ta référence à l'iceberg parce qu'effectivement, le télétravail, c'est une partie visible de tout ce qui entoure ce changement et cette maturité managériale que les entreprises doivent acquérir. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un point de vue et en tant qu'employé à l'ADN et en tant que RH, parce que c'est la fonction principale. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Je sais pas si tu veux clôturer avec un mot particulier ou une phrase ou si vous recrutez des gens, je sais pas, une annonce peut-être.
Non, j'aimerais beaucoup, mais pour le moment, je n'ai pas d'annonce. Mais j'aimerais bien, oui, pouvoir agrandir l'équipe pour travailler sur le sujet et développer la thématique. Non, mais écoute, merci à toi, Mélissa, pour tes questions et pour l'intérêt pour le sujet.
Super, merci Héloïse et bonne journée et à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast et à bientôt pour d'autres épisodes du Café sans filtre.